CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Ma vie rurale, ou la vie d'une fille de Paris qui a quitté un producteur de films pour un producteur de veaux bio. Ce livre aux éditions Parole de Cécile Yordanov vient de paraître et Cécile est avec nous. Bonjour Cécile.
Bonjour Lisa.
Vous êtes donc tout nouvellement écrivaine puisque vous étiez réalisatrice de films, de documentaires. Vous avez beaucoup vadrouillé à Paris, hein. Fille de Paris, c'est un peu le titre de ce livre. On ne va pas parler aujourd'hui de vos réalisations. Même si on peut aller voir sur le site, sur votre site, cécile-yordanov.com, ce que vous avez un petit peu faire. On va parler de ce livre. Donc, ma vie rurale, c'est drôle. C'est vraiment drôle. Vous êtes super drôle, Cécile. Vous parlez du moment où vous avez débarqué donc vers Saint-Antonin, là, en oui. train, avec vos petits escarpins qui oui. sont devenus une marée de bouse. ce livre, ma vie rurale, est déjà disponible donc aux éditions éditions Parole. Pour le très honnête prix de 13 euros. On va donner des petits avant-goûts aujourd'hui. Alors, vous allez nous lire des petits extraits. Avant ça, qu'est-ce qui vous a poussé à nous faire marrer comme ça?
Je pense que c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses qui s'offraient à moi qui me faisaient rire. Quand on arrive quelque part, que ce soit à l'étranger ou aussi chez nous, dans notre propre pays, dans peut-être des lieux ou des milieux finalement qu'on n'est pas tant que ça, qu'on pensait connaître, on regarde tout avec des yeux neufs. Dans mon métier de documentariste, c'est un peu ça aussi. Souvent, finalement, je remarque qu'on est meilleur quand on ne connaît pas grand-chose à son sujet. Parce qu'on arrive vierge, on est assez candide. Et on remarque beaucoup de choses. Et on pose des questions, beaucoup de questions. Et on fait des gaffes aussi. Et c'est ça qui est drôle. Et puis surtout, on trouve tout bien. On a les yeux ouverts comme... Oui, je pense toujours à Candide de Voltaire. J'aime bien ce personnage. C'est vraiment ça. Voilà, on est nature, on retrouve un regard d'enfant, je dirais. Voilà.
Vous racontez votre arrivée et la suite. Ça fait 30 ans que vous êtes là.
Ça fait... Oui, bientôt 30 ans. Ça sera l'année prochaine en janvier.
Voilà. Et vous racontez plein de petits bouts de votre vie. Alors en passant par le moment quand vous aviez 6 ans et vous demandiez s'il fallait pas devenir végétarienne et vous passez à la scène d'après avec un fusil en train de passer votre permis de chasse et de couper quelqu'un a...
de couper un sanglier en morceaux par exemple. Oui, effectivement, c'est une démarche marrante, quoi, parce que quand on est gamin, on adore, en général, tout le monde adore les animaux, hein, donc c'est pas un secret. Donc, moi, j'étais un peu plus que les autres, quand même, hein, un peu plus gaga, je chialais dès que je voyais quelqu'un acheter un poulet, parce que, mon Dieu, il allait le tuer pour le manger. En même temps, je mangeais des quantités de poulet astronomiques sans me poser de questions, mais quand même, toujours été vraiment très amoureuse du monde animal et de tout ce qui est nature, etc. Mais je pense que ça fait partie aussi de notre univers d'enfant, quand même. Et puis, quand je suis venue ici, ben forcément, j'étais attirée toujours. On ne vient pas vivre à la campagne si on aime que la ville et la tour Montparnasse. Donc, c'est que j'avais quand même quelque chose de très vrillé au corps, qui était cet amour de... Ouais, quand je dis la nature, c'est vraiment... Vraiment, vraiment ça, c'est carrément être, je sais pas moi, de vivre de rien dans la forêt, d'être, on faisait beaucoup de camping sauvage, des trucs, c'était vraiment des choses comme ça. Et puis après, pourquoi de l'autre côté, ben c'est une démarche. Et peu à peu, je me suis dit, mais comment on vit ici? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On élève des animaux, on les mange. Moi, je suis une grosse viandarde. J'adore les côtes de bœuf bien rouges depuis tout le temps. Qu'est-ce que c'est avant mon assiette, etc. Et peu à peu, tu en viens à assumer un petit peu ce que tu fais tous les jours. Et puis, il y a des choses qui rentrent dans un cadre, dans la nature, à la campagne. On élève des animaux. En tout cas, moi, je vis dans une région d'élevage. Donc les gens vivent et c'est important. Quant à la chasse, je voyais tous les jours, tous les dimanches, des personnes qui y allaient et c'était pas du tout ce que je m'étais représenté, enfin ce que je croyais en tout cas quand j'habitais en ville. C'était des gens comme moi, de tous les jours, qui partaient voilà, le dimanche.
Avec leurs chiens, se balader.
Voilà, donc je me suis dit, tiens, il s'y passe quoi là derrière et qu'est-ce qui se passe? Il y a la curiosité qui vous pique et puis un jour, on y va aussi Et je vois pas comment je m'en passerais totalement aujourd'hui, même si je suis pas une grosse acharnée.
Bah, vous dites un petit peu dans votre livre que c'est grâce à votre premier sanglier tué que vous faites partie des nôtres.
Oui, 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 tout à fait. De toute façon, c'est aussi le désir d'être intégré, mais ça, c'est chacun le voit comme il le sent. Hein. Mais pour moi, ça, c'était vital. J'ai souvent déménagé, mes parents bougeaient beaucoup. Vous êtes sans arrêt la petite nouvelle à l'école, c'est pas très facile à vivre. Donc, on cherche toujours comment on peut s'intégrer. C'est soit on reste complètement à l'écart tout le temps, et ça peut arriver, et on est assez malheureux. Mais quand même, on est des humains, on a envie de vivre ensemble, donc on essaye de faire des efforts pour vivre dans cette communauté. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé, peut-être. Je ne me voyais pas pourquoi je viendrais vivre ici à la campagne si je ne m'entendais pas avec ceux avec qui j'allais partager ma vie. Et puis, si ça n'avait pas été le cas, ben, je serais repartie, voilà.
Alors, vous partagez votre vie maintenant avec un producteur de veaux bio, contrairement au producteur de films, quand vous êtes arrivé avec vos petits escarpins à la gare de
Caussade. Oui, ou peut-être même de Lexos, car à ce moment-là, il y avait un train de nuit à Lexos.
Et vous dites que ce métier de producteur bio permet de tenir toute la soirée quand on est invité en société pour parler...
De tout.
De tout.
De tout. Oui, tout à fait. C'est un peu atypique dans mon milieu, mais dans beaucoup de milieux, les gens vivent très à l'intérieur même de leur communauté de travail. J'ai remarqué hein, souvent, c'est vrai que beaucoup de personnes sont rassurées s'ils sont avocats, de fréquenter des avocats, etc.
Ah, ça se fait tout seul.
Ou ça se fait tout seul, comme tu dis, Lisa. Donc, c'est... Les gens sont rassurés de se retrouver à travers d'une bulle. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je suis... De toute façon, j'étais toujours été comme ça. Hein. Toute gamine, j'étais attirée par le mauvais garçon de la barre d'en face plutôt que par le petit lunetteux à boutons ou celui qui avait une grande piscine à la maison. Et c'est... Bon, c'est... Je ne sais pas comment dire. Moi, c'est atypique. C'est sûr que dans mon milieu... Ah bon, tu vis avec un éleveur
Un bouseux.
Oui, parce que le coup du plouc, ça existe toujours. Hein. D'ailleurs, il paraît qu'il y a un super petit bouquin qui est paru, là, qui s'appelle Plouc Pride. Je vais le lire avec grande joie. Mais voilà, moi j'entends toujours même ma cousine et tout, que j'aime beaucoup. Bon, les ploucs, ouais, super, impeccable. Et puis peu à peu, finalement, tous mes amis étaient un peu interloqués quand même par ce changement de vie très radical, mais ils étaient intéressés en même temps, comme j'ai ri dans le livre, quelle chance, c'était un producteur bio, donc la bio c'est à peu près à la mode, donc ça va mieux. Finalement, peut-être ça va un peu mieux que si j'avais fréquenté un producteur de maïs en intensif dans les plaines de Beauce. Excusez-moi, messieurs les producteurs de maïs intensif. Voilà.
Il y a une scène très drôle. Enfin, tout est, on éclate de rire quatre fois par page. Hein, globalement, c'est le livre parfait pour aller bronzer sur la plage cet été. Il y a une scène où vous racontez notamment que vous retournez à Paris parce que vous continuez à travailler. Vous faites des piges différentes. Enfin, je ne sais pas si on dit des piges.
C'est ça, audiovisuel.
Oui. Et vous allez choisir une paire de chaussures dans un village qui n'est pas nommé, mais à 20 km autour de Saint-Antonin, pour retourner à Paris, parce que vous vous rendez compte que vous n'avez plus que des vieilles paires un peu crottées.
Oui, tout à fait.
Et ce retour à Paris, bah, je m'en suis un petit peu arrêtée là. Moi, malheureusement, je n'ai pas pu le finir, mais ça sera fait. Où vous ne savez plus trop c'est quoi la mode, comment on fait pour ne pas paraître plouc.
C'est ça, exactement. C'est quelque chose que j'ai vécu pendant 2-3 ans. Je faisais moitié-moitié, hein, moitié ici, à un petit village, chez Espinasse, hein, et moitié à Paris pour continuer donc, à faire des piges. Et il y a ce décalage tout le temps, effectivement. Il y a des choses qu'on ne voit pas d'habitude et tout d'un coup, ça saute aux yeux. Je me dis, mais merde, mais effectivement, mes chaussures, elles sont toutes crotteuses. Les autres, elles ont toutes des chaussures hyper nickel, qui brillent et tout.
Vous refusez quand même d'aller à la chaussure, hein?
Alors, j'avoue, tout à fait. Il reste un peu de snobisme quand même, des choses qu'on refuse. Aller à la chaussure, et le livre ne paraît pas sur Amazon. Il y a d'autres, sur d'autres plateformes, mais pas chez Amazon. Donc, oui, il reste un petit quelque chose comme ça. Et donc, je vais acheter des chaussures, et tout me fait rire, parce que je me dis, mais en fait, il y a des voix, on est des espèces de divisions de la personnalité, où on est à la fois d'ici maintenant à la campagne, il reste des réflexes de ville, donc on entend toutes ces voix qui se mélangent, qui se bousculent de ceux qui disent aux autres t'es un plouc, et d'autres qui disent mais toi t'es un sale parigot tel de veau, mm-hmm. Et puis tout ça, ça se mélange et ça donne des résultats assez rigolos, oui c'est vrai, et c'est un petit peu ça aussi les petits propos du livre, c'est ce choc un petit peu entre toutes les ce qu'on entend dire et puis peu à peu on arrive à autre chose. C'est drôle, j'ai une amie qui est repartie vers Paris pour des raisons personnelles, on va dire, et elle m'a livré quelque chose d'intéressant alors qu'elle a vécu dans l'Aude pendant un certain temps. Elle a dit à ses collègues, mais tu sais, en fait, vous me faites rire, vous n'inventez plus rien à Paris, mais vous n'inventez rien, en fait, tout ce que vous me dites, on l'a déjà fait, nous. Et ça m'a interrogée, je me suis dit finalement, oui, qu'est-ce que c'est que ces deux mondes qui s'affrontent tout le temps et finalement on se bat pour faire des choses les plus nouvelles possibles, alors que tout simplement faire des choses qui nous réjouissent finalement.
Vous avez une grosse capacité à vous émerveiller devant les choses du quotidien, les choses de la nature aussi, ça doit vraiment faciliter les choses, peut-être quand on arrive de Paris et qu'on s'installe à Fénérols.
Oui. Oui, parce que tout est drôle. S'installer dans une ferme, tout d'un coup, c'est la bousculade. Donc d'avoir effectivement, il y a ce monde animal. Ça, toutes les personnes qui vivent dans une ferme vont vous décrire des. On aime ça, décrire ces histoires de ces bêtes là. Quand on les regarde vraiment, il y a des choses. Mais oui, on se pisse dessus. C'est trop drôle, quoi. Ils ont des habitudes. On voyait que des animaux au départ, et là, on voit des choses vraiment. Très caractéristique et drôle, mais il y a aussi le monde de ceux qu'on côtoie. Il y a un autre humour qu'on découvre, mais j'ai un humour mais trop génial que j'ai peu à peu appréhendé, et peut-être aussi, alors chaque région de ce beau pays a sa particularité. C'est vrai qu'en Occitanie il y a un humour vraiment très délicat, avec beaucoup de descriptifs, de choses très visuelles, les surnoms, toutes ces choses-là, les sobriquets, c'est marrant, quoi, tout le temps. C'est, j'avais l'impression de retrouver un rire d'enfant. On cherchait pas, comment vous dire, à Paris, si vous écoutez certaines émissions, il faut toujours rivaliser pour montrer qu'on est au courant des dernières nouveautés, de la private joke vraiment meilleure que celle d'hier, parce que celle d'hier est déjà dépassée. Et finalement, on s'use à ce jeu-là, parce que c'est jamais terminé, et on n'est jamais nature. Et ici, on retrouve des formules et du rire qui est vraiment celui de quand on est gamin dans la cour d'école, et c'est bien plus intéressant pour moi. C'est de l'observation critique, c'est de la réaction rapide de l'esprit, c'est sympa, et c'est vrai que j'ai percuté pas mal sur ce genre de choses, oui.
Il y a des tout est drôle, hein, je le redis, il y a une scène magnifique où vous comparez un petit peu les premiers baisers dans une salle de cinéma à Paris, un premier date. Et là, avec votre compagnon, une soirée Brame du cerf.
Oui.
Où vous dites que la proximité est animale, que c'est, oui. On est aussi dans un lieu fermé entre deux, que c'est dans la voiture, donc là en l'occurrence.
Oui, et puis dehors la voiture. Et c'est vrai que oui, il y a un contenu très fort, effectivement, cette proximité à la nature. Il y a un côté érotique aussi, ce que je voulais justement, comme tu le dis, rapprocher un petit peu. C'est cette scène quand on est au cinéma dans ce milieu clos où il y a les premières approches, etc. Et que on a ce cinéma en pleine nature. Et oui, j'ai trouvé ça marrant de faire ça, ce Brame du cerf. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous, dans beaucoup de régions de France, d'ailleurs, quelque chose de sacré. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer ça quand on est en ville. Évidemment, on va venir assister à une petite sortie organisée, peut-être, mais ce n'est pas ça, en réalité. C'est une espèce de communauté qui se rencontrent comme ça de partout. On a des phares qui arrivent, des voitures qui se garent, des gens silencieux, c'est sacré. Chacun va chercher un petit peu son endroit où on va entendre ce bruit. Et la joie et le plaisir qu'on a d'entendre ça, c'est vraiment intime. C'est quelque chose qu'on finit par intégrer, mais qu'on n'imaginait pas avant, on veut dire qu'est-ce qui, pourquoi est-ce qu'on va s'extasier d'un truc qui fait me fait pas mal à force.
Bah, franchement. Au final, vous êtes une néo-rurale. Vous devez certainement être taxée de bobo ou de, je sais pas, mais vous avez vraiment réussi à saisir les codes en fait. Parce que c'est des codes, toute une histoire de vous avez fait une étude sociologique.
J'ai eu la chance de jamais être taxée de bobo parce que je crois que je n'en ai jamais été finalement. Mais c'est vrai qu'en général, c'est un petit peu le. On parle de néo-ruraux.
Ouais.
D'ailleurs, moi, je le dis, c'est presque néo-rural. D'ailleurs, c'est un terme inventé par la presse parisienne. Hein, parce qu'ici, on ne dit pas les néo-ruraux, on dit les parachutés.
C'est une parachutée.
Absolument. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, tu trouves. Encore ouais. mieux qu'on est au rural, ça veut dire que voilà, on est parachuté. Et moi, qu'est-ce qui se passe? J'atterris avec mon parachute, je me casse un peu la gueule, je suis mauvaise pour atterrir. Et tout d'un coup, on arrive dans un lieu et qu'est-ce qui s'y passe? Et comment je fais pour survivre finalement là? Voilà, soit on va me donner un grand coup de pied au derrière et me dire.
Coupe ton bois toi-même.
Coupe ton bois toi-même, soit je vais essayer de couper le bois avec quelqu'un et d'apprendre. Voilà.
Vous pouvez nous lire un petit extrait, Cécile Yordanov, de Ma vie rurale, donc, ou la vie d'une fille de Paris qui a quitté un producteur de films pour un producteur de veau bio.
Bio. Alors, y a plusieurs petites choses, mais je ne vais pas vous les dévoiler. C'est un petit. Alors, pour mes camarades chasseurs, peut-être je vais lire un petit extrait d'un passage chasse et puis après autre chose, peut-être. Donc là, c'est un peu Tartarin de Tarascon féminin, donc hein, qui arrive, qui vient de passer son permis de chasse. Voilà, donc comme je dis, ma mère n'a pas l'air très heureuse que je réussisse si bien cet examen. Je ne crois pas que j'aurais été aussi brillante au bac, je n'ai pas une aussi bonne note. Reçu du premier coup avec zéro faute. Je dois vous dire que ça m'est jamais arrivé un autre examen, mais bon, c'est comme ça. J'étais très motivée et j'ai bien appris ma leçon. Donc, on me fixe une casquette orange sur la tête, on me cale dans les mains un fusil qui porte bien la balle et on m'installe au poste dit du chêne de la côte de Mordagne. Donc, certains vont savoir de quoi je parle. Le fils de la maison voisine, qui ne chasse pas mais assiste à toutes les battues, reste à côté de moi. Je suis chaperonnée. Impossible de me défiler, de faire semblant de charger mon fusil ou de prétendre d'avoir reçu une mouche dans l'œil au moment crucial. Macarelle, comme on dit ici, quelle menée! Des sangliers fusent de partout, buvent à un poste, rebondissent en sens inverse. Ça tire de tous les côtés, pire qu'au camp militaire d'en face les jours de grande manœuvre. Soudain, voilà qu'il prend un sanglier, l'idée saugrenue de remonter la combe droit sur moi. Il ne me voit donc pas, cet étourdi. Je viens d'achever la Bibaude de Vincenot et récite mentalement les paroles du novice qui veut tuer son premier sanglier pour épater le grand-père Tremblot. Au défaut de l'épaule, c'est là qu'il faut tirer. Enfin ça, c'est de la littérature. Vous savez où ça se trouve, vous, le défaut de l'épaule? Je vise comme je peux, loupé. L'animal doit être suicidaire car il continue de galoper dans ma direction. Mon compagnon de poste murmure « Te presse pas, laisse-le encore monter !» Je révise mes rudiments d'équitation, car dans un instant, je vais me retrouver à califourchon sur le suidé. J'épaule à nouveau, et quand mon mentor me dit « Maintenant, vas-y !» je tire. Voilà que ce comique de Suscrofa effectue une cabriole du plus bel effet avant de retomber de tout son long. « Touché !» ponctue mon coach. « Tu pars !» lui dis-je d'un ton de proue. « Il va se relever !» J'ai lu tant d'histoires où cela arrive à des chasseurs plus chevronnés que moi. « Cela m'étonnerait !» répond mon camarade. Et pour m'en convaincre, il tire son couteau de sa poche, approche la bête et lui tranche d'un coup net les roubignoles, par exemple. Je ne m'attendais pas à cela. J'en conclus qu'en effet, il est bien mort. Tout de même, je ne suis pas très contente qu'on émascule ainsi ma proie sans me demander mon avis. Il paraît que c'est pour la viande. Pauvre bête. Il y a une suite, mais je ne vais pas vous embêter plus longtemps.
Alors, loin de là. Par contre, j'ai noté que vous faites l'accent, pareil, quand vous interprétez votre coach. Vous n'avez pas chopé l'accent.
Non, quand je dis Macarelle, ils viennent tous se moquer de moi parce que je n'ai pas le bon accent. Ce matin, on m'a dit que j'avais l'accent alsacien. Donc J'ai jamais vécu en Alsace. Je crois que c'est un mix un petit peu de tous les endroits où j'ai vécu. Et finalement, tout ça, ça fait un accent alsacien. Ah, ben c'est parfait.
Et comme vous êtes très, 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 très loin de nous embêter, vous nous en faites un autre ?
Un petit. Alors, il y a des tas de choses qui sont importantes à la campagne. Il y a la météo. Il y a les mouches. Ils nous embêtent beaucoup. Et je vais peut-être lire un petit extrait. La météo, tiens, allez, c'est tout simple. C'est un sujet d'actualité, il ne fait pas très beau aujourd'hui. Donc la météo, ça aussi, j'ai découvert beaucoup de choses. Avant, je me disais, quand je venais de la ville, oh là là, il pleut aujourd'hui, il ne fait pas beau, zut. Maintenant, je trouve ça très bien, la pluie. Voilà, je trouve que c'est chouette. Je vois que les rivières coulent à nouveau, qu'il fait beaucoup moins chaud quand on est en plein soleil au mois de juillet. Je vois aussi que c'est dans le moment où on se repose, où mon ami ne travaille pas pour une fois, et où je pars en vacances. Je suis une des rares touristes qui part en vacances quand il pleut. Les hôteliers m'adorent. Donc, la météo. Les nuages ne sont pas d'accord avec la météo qui annonce du beau temps pour le restant de la semaine. La météo. Existe-t-il une institution plus respectable que la météo ? Ces petites dames vêtues de costumes printaniers hiver comme été, qui trottent à pas menus devant leurs grandes cartes pleines de pluie et de soleil, se rendent-elles compte que la France entière est suspendue à leurs lèvres ? La France entière, mais la France rurale en particulier. Clic ! La télé s'allume. Le monde peut exploser. Les animateurs tenter les blagues les plus improbables, la pub vanter les désirs les plus inavouables, le brouhaha continue, mais soudain, chut, la météo. La pièce est réduite au mutisme. Même les bambins n'osent plus émettre le moindre caprice. Quand c'est la météo, l'avenir de la planète est en jeu. Dans le silence de la maison soudain transformée en cathédrale, la petite dame, penchée dans sa position de mante religieuse, apparaît dans le coin gauche de l'écran, décrivant de sa main agile des cercles magiques sur une carte perturbée qui fera le bonheur ou le malheur de la ferme. Suit une série de cartes animées de couleurs et de traits qui signifient fauche, mécanique, bricolage ou semoir. Pourquoi les spécialistes de la météo ne mettent-ils pas de petits tracteurs sur leurs cartes quand il fait beau ? Alors qu'il leur arrive de mettre des petits parasols. La météo se regarde au minimum une fois par jour, mais elle est vérifiée sur le journal, la radio locale, le téléphone, Internet, l'almanach des dictons de type Saint de glace, Noël au balcon et autres pelures d'oignons qui font les grandes refroidures. Il ressort de cette étude approfondie le fait que le soleil décide parfois de n'obéir à personne.
Cécile Yordanoff, Ma vie rurale, des extraits de ce livre. Je suis un peu obligée de vous demander là, en deux minutes, il y aura une suite dans 30 ans ? Comment on fait nous pour...
On verra, ma carrelle, quand je serai bien vieille au coin du feu, j'aurai peut-être encore des choses à vous raconter.
On espère sincèrement, enfin j'espère de tout mon cœur. Ce livre, Ma vie rurale ou la vie d'une fille de Paris qui a quitté un producteur de films pour un producteur de veau bio, est à retrouver donc sur les éditions Parole. On peut le commander sur le site www.editionsparole.fr. Il est au prix de 13€ pour 288 pages.
Et dans nos librairies, bien entendu, de nos petits coins qui défendent toujours les auteurs indépendants. Voilà.
Bientôt des séances de dédicace. Alors, on mentionnait vite fait La Femme Renarde et Le Tracteur Savant.
Alors, ils ont de bonnes intentions en ce sens, mais nous verrons s'ils trouvent le temps, parce qu'effectivement, ça se bouscule un peu au portillon en ce moment. Il y a aussi La Folle Avoine à Villefranche. Mais effectivement, c'est compliqué pour elles toutes de contenter toutes les envies de signer nos livres.
J'aurais pu m'installer à l'autre bout du monde. J'aurais adopté le boubou, dégusté des mets pimentés, dansé collé serré. L'exotisme s'est trouvé juste en bas de chez moi. On est à Fénérolles.
Espinasse. C'est tout pareil en réalité, car je suis très près de Fénérolles aussi. Non, c'est pas grave, Lisa. C'est juste, voilà, le vrai petit village, mais c'est tout est pareil, hein, d'ailleurs. Ceci dit, c'est Espinasse. Et Et voilà, c'est pas très loin de Fénérol, en effet. Oui, oui, tout à fait.
Cécile Yordanov, on peut en profiter pour regarder un petit peu tous vos travaux qui sont à voir. On aurait le temps de faire 45 mag sur www.cécileyordanov.com. C'est votre nom. Un grand merci.
Merci beaucoup, Lisa.